La rencontre de Boyan et Éric Marchand s'est construite autour de l'amour des musiques populaires d'Europe orientale et des musiques modales. La fusion de la voix du grand chanteur breton et des notes de l'immense pianiste de jazz franco-serbe apporte ici son énergie et ses phrasés inimitables. Le groupe apporte un parfum rare qui donne de la nouveauté aux musiques bretonnes mêlées aux sonorités serbes.
Mais on est très enchanté de vous rencontrer. On vous a observé tout à l'heure et écouté en concert. Première impression déjà pour commencer après ce festival.
C'était une question. Première impression. Formidable. Plus.
Oui, plus. Ah, on veut vraiment savoir comment vous avez vécu l'événement.
Je disais que, un intervieweur avant vous, peu importe, on avait un concert il y a 3 semaines, c'est ça à peu près, à Prague, en République tchèque. Nous, on n'était pas aussi contents que ce soir. Et puis, disons que le retour du public là-bas, donc, ils ne connaissent pas ni la musique bretonne, ils connaissent peut-être un peu plus la musique des Balkans. Mais en tout cas, il s'est fait qu'on avait un peu le doute de la manière dont ils ont reçu, etc. Donc on n'était pas très contents, mais par contre, les échos qu'on a eus après, c'est qu'ils ont adoré. Bon, mais ici, disons qu'on s'est posé beaucoup moins la question, parce que déjà, la langue que Eric parlait, c'est la langue que quand même beaucoup de gens présents ils comprennent un peu ou un peu plus. Et donc on était un peu plus proche de la maison de l'un de nous deux, n'est-ce pas ? Donc, en l'occurrence, Eric. Et puis on était beaucoup plus contents, nous aussi, de ce qu'on a ressenti sur scène et puis de retour qu'on a eu du public. Mais c'est toujours le cas, ce qu'on fait, on a notre idée de niveau dans lequel il faudrait que ça opère. Parfois ça arrive, parfois ça arrive pas. Ce soir, enfin cet après-midi en tout cas, on a trouvé qu'on était à l'endroit et que des gens ils ont reçu quelque chose qu'on voulait envoyer. Voilà. Mais c'est en même temps, c'est exactement ça, cette difficulté-là qui nous donne envie de monter sur scène et d'essayer d'atteindre ce niveau de clarté et d'excellence. Voilà. J'espère que je vous réponds à votre question.
C'est très bien. Peut-être un commentaire d'Éric ?
Oui, on peut s'imaginer qu'à Prague, on va être plus proche de Belgrade, et pas forcément parce que l'histoire de chaque individu, même s'il est lié à un pays qui paraît un pays slave, qui a eu une existence, un vécu qui pourrait paraître comparable, c'est pas forcément le cas, et que... Ben voilà, musicalement, on peut être à l'extrême pointe du Finistère, plus en phase avec des choses qui vont rassembler un sentiment yougoslave et un sentiment breton. Mais peut-être que le mystère, il est ailleurs. Peut-être que c'est simplement dans notre tête que ça s'est passé d'une autre manière, plutôt que dans la géographie.
D'accord. Alors, c'est une bonne transition avec ma prochaine question. Pour que les auditeurs qui ne vous connaissent pas, ou peut-être, j'espère un petit peu bientôt, pour ceux qui ne connaissent pas en tout cas...
Moi j'espère qu'il y en ait qui ne nous connaissent pas, enfin qui me connaissent pas. Donc on a une raison, une bonne raison de remonter sur scène et de jouer la musique et leur proposer des choses qu'ils n'ont jamais entendues. Voilà.
Et donc faire en sorte qu'ils vous connaissent un petit peu plus, à travers peut-être une présentation, en tout cas surtout... leur dire comment est venue cette rencontre. Tu es serbe, c'est ça ?
Non, je suis yougoslave.
Oui, pardon. Et Eric,
serbe, ça me semble beauf, c'est réducteur.
C'est réducteur.
Bah, oui, disons que quand ils ont commencé à se taper sur la gueule d'une manière très, 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 très méchante, j'étais déjà ici, donc je n'étais pas dans la position où je devais choisir. Alors bon, tu étais yougoslave jusqu'à... Mais demain, tu serais... Ça n'existe plus, la Yougoslavie, tu sais. Donc personne m'a obligé. Donc que j'étais déjà en France, j'ai dit, bon, moi, je suis yougoslave pour toujours. Parce que c'est pareil, imagine que tu vis donc, en France et que tu as l'idée que tu es français. Et d'un coup, boum, ok, il n'y a plus de France. T'es quoi maintenant ? T'es toujours français. Donc tu vois, le fait que historiquement, administrativement, les frontières bougent et ne sont plus là où... Mais mes sentiments d'être chez moi sont toujours présents où que je sois dans ce qui fut la Yougoslavie. C'est pour ça que, tu vois, si je dis serbe, mais c'est vrai, je suis né à Belgrade, ma grand-mère, elle est serbe, mais moi, non, je suis serbe aussi.
D'accord. Et donc, c'est cette union avec Eric, qui est plutôt breton, comment ça s'est fait, ce duo, pour que les auditeurs comprennent un peu plus?
Alors, c'est vraiment la musique. Parce que moi, je travaille depuis des années, je suis passionné par le fait que la musique harmonique soit quelque chose qui ne soit pas forcément la vérité universelle de l'Occident. Il se trouve que c'est génial. Il y a un pays où les gens se sont malheureusement écharpés. Et justement, ils se sont écharpés parce qu'ils sont à cette limite entre l'Occident et l'Orient. Ils ont réfléchi ou pas. Parce que s'ils se foutent sur la gueule, c'est autant parce qu'ils ont réfléchi qu'ils n'ont pas réfléchi à cette position. Mais c'est vrai. Et donc, moi, je viens de l'extrême ouest de l'Occident et j'arrive dans un pays où on n'a pas eu besoin de s'écharper pour considérer que la musique modale, c'est quelque chose qui nous appartient à nous. Alors, qu'est-ce que c'est que la musique modale? C'est une musique bizarre. C'est quelque chose qui n'est pas la musique harmonique, c'est-à-dire que nous, en Bretagne, les gens au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, ils n'auraient pas été capables d'écrire du Mozart ou du Beethoven au XVIIIe. Il y avait des gens qui auraient été peut-être capables de le faire, mais pas la majorité qui ne l'entendaient pas. Les gens qui chantaient chez nous, ils chantaient des choses comparables à ce que pouvaient chanter des gens de la campagne d'autour de Sarajevo, même si à Sarajevo, il y avait des gens qui faisaient de l'excellente musique harmonique, même si à côté de Belgrade, il y avait des gens qui faisaient, ou à Belgrade, il y avait des gens qui faisaient de l'excellente musique harmonique. Il y avait aussi des gens qui étaient là, qui étaient dans un monde qui ne correspondait pas à ça. Ils ont réussi en quelques dizaines ou centaines d'années, à rassembler tous ces éléments, ce qu'il faisait et ce qu'il ne faisait pas. Moi, ce qui m'a intéressé quand j'ai entendu la musique de Boyan, c'est que lui, il avait cette connaissance, cette compréhension et des réponses à donner qui étaient un petit peu différentes de celles que je donnais moi, et heureusement. Donc, j'ai eu le plaisir de pouvoir l'inviter à travailler d'abord avec Chris Brez Academy, puis ensuite, on s'est retrouvés sur scène. Mais l'idée, c'était déjà la manière dont on pouvait penser qu'il n'y avait pas une vérité musicale qui allait, parce qu'on est occidentaux, nous imposer une manière de fonctionner. Et que cette manière de fonctionner, on pouvait toujours la détourner.
Disons que si je regarde mon parcours musical, j'ai commencé l'apprentissage de la musique classique à l'âge de 5 ans. Parce qu'il n'y avait que ça comme ce qui était proposé par les établissements scolaires pour apprendre à jouer du piano. Donc c'était automatiquement à travers le répertoire classique. Donc le mot classique, c'est quand même grandiose. Je ne sais pas qui l'a inventé, mais c'est un génie. Hein. Parce que déjà, classique, ça peut vous éloigner. Ou certaines personnes, ça peut les approcher. Mais moi, personnellement, côté classique, ça ne me parlait pas. Mais derrière ça, il y avait donc toute la musique des grands compositeurs de la musique comme Bartok, Mozart, etc., etc., etc. Donc il y avait effectivement cette musique-là qui était présente depuis que j'ai commencé à apprendre la musique. Mais à l'âge de 6 ans, j'ai découvert les Beatles. Ah bah, ça c'est quoi? Ça s'appelle quoi? Ah, ça s'appelle la musique comment? Rock. Rock. R-O-C-K. Ah, R-O-C-K, d'accord. Comme le rocher, oui. Pourquoi? Bon, peu importe. Donc, en permanence, il y a quelqu'un qui donne des termes pour désigner une certaine esthétique ou un certain courant aux musiques que moi, en tant que musicien, j'appréhende d'abord par les oreilles et par mon âme. Donc, je me suis dit, OK, donc, disons que moi, c'est d'abord ça. C'est d'abord la musique qui me touche et après l'intellect qui essaye de comprendre comment ça s'appelle, à quoi ça correspond pour les autres, à quoi ça correspond pour moi, etc. etc. Donc j'ai toujours gardé ce doute que je ne suis ni le porteur de quoi que ce soit, ni un grand inventeur de quoi que ce soit, mais je suis quelqu'un qui, comme je disais tout à l'heure, par vous, un autre intervieweur, peu importe, que ces éléments, ils sont là à notre disposition en permanence. Vous arrivez, vous êtes un jeune musicien, vous êtes sensible aux émotions que peuvent véhiculer des rythmes avec la mélodie, etc., etc. Et donc, c'est la seule chose qui vous intéresse, c'est que ça vous touche. Par la suite, il y a l'intellect qui prend le dessus, vous apprenez comment ça s'appelle, à quelle période ça correspond, qui sont les grands représentants de ce courant-là, que ce soit la musique rock ou la musique classique, ou la musique jazz, ou la musique traditionnelle, etc. etc. Après, vous commencez à voyager. Donc, vous rencontrez les autres représentants jeunes, des jeunes musiciens qui sont intéressés à leur manière à tous ces éléments existants. Vous dites, ah d'accord, ok, ça m'intéresse, ça je comprends, etc. En gros, vous faites une évolution qui, à la longue, devient votre identité musicale. Donc je ne me suis jamais cloisonné, quand je suis venu en France. Quand vous changez le pays, vous remettez tout en cause. Tout ce que vous avez connu dans votre pays d'origine, et vous bougez complètement le lieu d'habitation, la langue, les mœurs, etc. Donc tout est remis en cause. Par la suite, vous retrouvez des éléments qui sont communs. Mais cette ouverture, elle reste quelque chose de très naturel. Par le fait que vous avez bougé vous-même, vous avez bougé géographiquement parlant. Je crois que Eric, venant de la Bretagne, aussi tu as découvert tout ça quand tu as rencontré des musiciens de là-bas. Et tu t'es déjà posé des questions par rapport à la musique d'ici. Comment ça peut se rafraîchir par des gens venant d'autres cultures, mais qui ont la même vision ou qui le même ressentiment de tout ça. Et c'est comme ça que des choses avancent.
C'est plus que la musique. Je suis tombé amoureux de la Serbie, je suis tombé amoureux du Banat, qui est une région frontalière entre la Serbie et la Roumanie, quand j'avais 25 ans. Je suis tombé amoureux des gens, de la société, de la civilisation, avant de penser que la musique pouvait être quelque chose d'important et qui pouvait créer quelque chose. Il y a en 81, quand je suis allé pour la première fois en Serbie, jamais je n'aurais pensé qu'un jour j'aurais joué avec un pianiste de jazz qui s'appelle Bojan Zufikarpašić et qui ne savait peut-être même pas lui-même à ce moment-là s'il serait un pianiste de jazz. Voilà, toutes ces choses-là sont des choses qui sont juste des créations de ce que nous donne le monde à vivre aujourd'hui. Et on espère, j'espère que ça va durer longtemps et qu'on ne va pas nous renfermer pour des raisons ou d'autres, pour des raisons positives ou négatives, dans un non-voyage et un non-échange.
Après une réponse comme ça, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile de rebondir. Eric chante en breton. Est-ce que toi, tu parles le breton, Bojan? Est-ce que tu le comprends? Est-ce que tu valides les textes? Comment ça se passe? Et enfin, moi, qui ne parle pas le breton, quels sont les messages principaux des textes?
Je m'intéresse, tu vois. J'ai demandé à Eric plusieurs fois s'il peut me dire de quoi il parle. Parce que non, je comprends que quelques mots. Donc je ne peux pas dire que je parle breton, loin de là. Par contre, il y a une certaine sensibilité que j'ai découvert. Si tu veux, j'ai joué avec, si vous voulez, il paraît que dans les radios, il faut se vouvoyer en permanence. Et elle est compliquée, la France, avec le vouvoiement et le tutoiement. Mais bon, peu importe. On revient sur ce que je voulais dire. La première fois que j'ai découvert la Bretagne, c'était en 91 ou 12, je ne me rappelle plus. J'ai fait 3 semaines de tournée dans tous les lieux importants en ce qui concerne la musique en Bretagne avec Henri Texier. J'ai rencontré Dan Arbraz, Jacques Pellen, Christine Norgues. Je crois qu'on ne s'est pas rencontrés en fait à ce moment-là.
C'est possible.
Mais j'ai pris connaissance de tes recherches, parce que c'était déjà le cas.
On a su qu'on existait.
Voilà, exact. Et je me suis dit, chouette, il y a une partie de la France qui est un pays normal, selon mes critères. Et mes critères ont été le pays qui a une tradition musicale, qui tient à son identité musicale, à sa langue, et ceci et cela. Parce que la France, si on, enfin, ça fait depuis que j'y suis, et ça va faire bientôt 30 ans que je suis en France, très précisément dans un an, j'ai cherché le folklore français, et je me suis dit, mais c'est hallucinant, il n'y en a pas. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait déjà des gens comme le workshop de Lyon, qui ont inventé le folklore, et ils ont appelé ça donc le folklore imaginaire. Donc ils étaient conscients qu'ils vivent dans un pays où le folklore, comme une expression de peuple, existait, mais qu'il a disparu. Comment ? C'est une quête qui continue en ce qui me concerne. Je pense que la francisation de la France y a été pour quelque chose, et définitivement la manière dont la Deuxième Guerre mondiale s'est passée et l'arrivée de la télé et de l'américanisation de la société française y est pour quelque chose aussi, ou tout simplement ce folklore, il a disparu de beaucoup de coins de la France qui ont accepté entièrement leur francisation. Après, il restait des coins, tous, pas tous,
en Corse,
etc. L'Astérix, n'est-ce pas ? Donc la Bretagne, définitivement, en fait partie. Pays Basque, deuxième, et la Corse, le troisième. Donc ce sont les bastions forts d'une identité alternative à l'identité française. Et comme par hasard, c'est dans ces coins-là qu'on a gardé des mœurs culturelles et notamment des traditions musicales aussi. Et l'Auvergne avec la bourrée auvergnate, etc.
En Alsace aussi un petit peu. Ils ont
en gardé. Alsace aussi, mais tu vois, que des coins qui se disent français aussi. Pas d'abord français.
Et puis, dans ce que nous avons chanté aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a peu de temps, juste à la frontière entre la Serbie et la Hongrie, la police hongroise a lâché des chiens sur des immigrés qui venaient de Syrie. La chanson que je chante, qui est une chanson du 19e siècle ici, qui parle de débordements qui ont eu lieu dans la ville de Dis, qui est une ville mythique. La chanson est beaucoup plus ancienne et beaucoup plus récente que la ville Dis. On dit, et quand les pauvres allaient en pleurant, on a lâché sur eux les chiens pour les déchirer. Donc, est-ce que vous pensez qu'une langue peut ne pas porter des valeurs aussi opposées à celles qu'on a vues aujourd'hui à la frontière de la Serbie et de la Hongrie? Voilà. Et on est au 19e siècle, on aurait pu être au 18e, et les langues ne sont jamais porteuses d'une philosophie, elles sont porteuses d'humanité. Après, on peut leur donner des... On peut essayer de les formaliser, de les formater, de leur dire c'est ça, cette langue va être la force de notre ethnie. Non, les langues disent les choses qui arrivent aux êtres humains.
C'est quoi une ethnie ? C'est juste l'une forme esthétique qui représente l'humanité. Mais en fait, les points communs, ils sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on veut nous faire croire. D'où l'intérêt de voyager, d'où l'intérêt de ces festivals comme les Vieilles Charrues qui proposent des rencontres comme la nôtre ou autres. Car derrière ça, il y a des vérités universelles qui sont, tiens, on est tous des humains et on essaye de s'amuser en étant sur cette planète et de se faire du bien plutôt que de se faire du mal. Mais on est dans un truc très complexe aujourd'hui, n'est-ce pas, par rapport à tout ça.
Ce type de festival vous permet de rencontrer d'autres artistes ou d'autres styles musicaux avec lesquels vous souhaiteriez vous investir davantage, partager ou...
On reste très ouvert à ça, bien évidemment que tout est possible. On ne sait jamais qui est présent dans le public qui nous écoute. De la même manière, je vous donne un exemple, quand j'étais jeune musicien... Qui n'avait pas trop l'idée ni où je vais aller, ni qu'est-ce qui m'intéresse. J'étais juste intéressé par la musique. Donc l'Alliance française à Belgrade, où je vivais à l'époque, a proposé des concerts de jazz français. Alors j'étais complètement submergé par le jazz américain, comme la plupart des musiciens, parce que je me suis dit, c'est la musique de là-bas qui me touche, donc je veux être comme eux, blablabla. Puis, ok, ah d'accord, le jazz français, bah, écoute, je vais aller écouter. Et je me rappelle, j'étais donc au premier rang et j'écoutais Henri Texier, un contrebassiste français avec lequel je me suis retrouvé à jouer par la suite pendant 12 ans. Et je me rappelle de ma réflexion de jeune ignorant. Je dis, ah, mais écoute, c'est pas mal du tout pour les Français. Après, j'ai écouté Bernard Lubat et sa compagnie. Et c'était, je crois, l'un des pics de son activité musicale et de son côté révolutionnaire, où il proposait une certaine idée de folklore français à travers le jazz. Je me suis dit, bah, écoute, là, c'est carrément les premières images de la France, en dehors de ma mère qui parlait français et qui me disait « Bonne nuit les enfants » pour nous faire coucher en français. Je me suis dit, mais c'est waouh, ok, les premières, certaines, comment dire, les images mentales que je me suis fait, c'était en écoutant cette musique-là où l'approche française qu'avait Bernard Lubat vers la musique de jazz. Et c'est là que je me suis dit, en fait, qu'on a le droit, nous tous, d'où qu'on vient, approcher une certaine musique qui, disons, a des aspects de la musique folklorique, le jazz les a, avec une histoire. Donc c'est de la musique européenne jouée par les musiciens africains sur le sol d'un troisième continent qui était le continent américain. C'est juste et la manière dont ça s'est fait, ça donnait naissance à un truc. Après, le terme jazz a été inventé par ceux qui vendent cette musique. Donc personnellement, très rapidement, je suis devenu conscient de tout ce truc-là qui donne les titres aux différents courants musicaux. Donc, comme je vous ai dit, la musique classique, ça veut dire rien pour moi. Enfin, et en même temps, je suis conscient de ce que ça peut dire, de ce que ça peut dire pour les autres. Jazz aussi, la musique folklorique, c'est pareil. Mais derrière, j'essaie de rester le musicien qui est ouvert et qui n'est pas accroché à cette terminologie-là pour me définir. Je ne peux pas me définir à travers ça, c'est trop réducteur. Je suis quelqu'un qui est vivant, qui est intéressé, qui réagit d'une manière émotive à ce qu'il ressent, ce qu'il entend, quel que soit et d'où que soit vient la musique que je viens d'entendre. Donc je pense que c'est de cette manière-là que c'est assez logique que des âmes similaires, comme Eric, qu'on se retrouve à un moment donné, qu'on essaye de faire quelque chose ensemble.
Il y a un élément qui est intéressant quand on voyage en Europe orientale. Les musiciens, la majorité des musiciens de musique populaire, l'immense majorité, plus de 90% des musiciens de musique populaire sont des gens qui appartiennent à la minorité qu'on appelle Rome aujourd'hui, qu'on appelait Tzigane, et aujourd'hui Rome est aussi négatif que Tzigane. Ces gens-là sont très souvent extrêmement appréciés, adulés parfois, quand ce sont des grands maîtres, par la majorité de tous les nationalistes de tous ces pays des Balkans qui vont souhaiter les mettre en prison, mais qui les inviteront toujours pour jouer au mariage de leurs enfants.
S'il n'y a pas les gitans quand vous faites les fêtes, la fête elle est gâchée, elle ne se passe pas. Donc moindre mariage, ils arrivent, et là tout le monde, disons, là on décolle. Et là, il y a une réelle idée de la fête qui se fait, et c'est grâce aux gitans. Et en même temps, ils sont traités comme des sous-merdes. Donc c'est assez marrant, ça.
Et ça, c'est un exemple du fait que la musique, celle qu'on entend dans un festival, celle qui va nous faire rencontrer d'autres gens, est-ce que le lendemain matin, ceux qui ne sont pas musiciens vont se rappeler de tous les sentiments que ces choses-là on peut faire naître, parce que le lendemain matin, les gens d'Europe orientale qui vont se réveiller, ils vont s'apercevoir qu'ils ont moins d'argent dans leur poche et qu'ils ont la gueule de bois, et ça va être la faute à qui ? Ça va être la faute des gitans.
Auxquels ils ont donné cet argent.
Voilà. Alors, avec un plaisir non dissimulé, mais dans un bonheur qu'on peut le photographier, on peut le filmer, si vous avez vu les films de Kusturica, les gens sont extrêmement heureux, et le lendemain, c'est la faute à qui si on n'a plus d'argent dans notre poche.
Non, tu leur as tout donné. Parce qu'ils t'ont touché.
Ils m'ont tout pris. Le souffre-douleur, quoi. Il faut trouver un bouc émissaire.
J'ai utilisé le terme sous-merde. Désolé, mais ce que j'ai vécu en vivant à côté des gitans et des Roms à Belgrade, disons que franchement, ils étaient traités comme, pas deuxième classe, mais troisième classe. Les citoyens de troisième classe, quoi.
Ils peuvent être dans une communauté proche, dans des petites villes, extrêmement appréciés, être considérés comme des grands maîtres, comme notre camarade Kosti Kaolan. Et Kosti Kaolan, quand il arrive à Bucarest, à la capitale, il est plus connu comme Kostika Holan. On voit juste que c'est un tzigane. Et ça, il le ressent et c'est extrêmement difficile pour lui. Parce que lorsqu'on est reconnu dans sa communauté, comme Boyan va être reconnu comme un grand pianiste de jazz, alors je ne sais pas où se trouve la jazzité, mais s'il sort de ce monde-là, on va le reconnaître physiquement parce qu'il s'est rasé les cheveux, qu'il a des lunettes de soleil, je ne sais pas quoi. On va le reconnaître comme appartenant à une communauté. Et à partir du moment où on le reconnaîtra comme appartenant à cette communauté, sans savoir quelle est sa qualité d'artiste, ça va commencer à être le merdier. C'est quelque chose d'important à savoir aussi. Donc, c'est passionnant d'être dans des festivals, de rencontrer des gens, et nous autres, entre musiciens, de nous enrichir de nos rencontres personnelles. C'est important que quand on sort du festival, on puisse imaginer aussi que ça peut être pareil avec le gars qui va vendre un sandwich.
Il y a un écrivain croate qui, d'ailleurs, était l'un des grands, penseur de l'idée de la Yougoslavie, où tous ces gens-là, ils ont des choses en commun. Il s'appelait Miroslav Krleža et il a écrit une phrase qui m'a expliqué pas mal de choses, et même, je crois, la chose dont on est en train de parler maintenant, c'est être dans un troupeau. C'est bien, ça tient chaud, mais qu'est-ce que ça sent la merde, hein. Donc voilà,
très belle citation.
Ont été expliquées par ça, quoi. Donc l'individualité, c'est quelque chose définitivement et quelque chose qu'il faut sur quoi il faut travailler pour être bien sans les autres. Auquel cas, et que à partir de ce moment-là, on peut être bien avec des gens similaires, mais basé sur un truc qui est OK, qui n'est pas un besoin de se cacher ses problèmes, etc., dans le groupe. Donc voilà, je pense que la manière dont on avance dans la vie, et Eric et moi, c'est surtout ça. On est bien sans cette communauté-là, mais en fait, on en a besoin pour avancer avec force dans notre idée, quoi. Voilà.
Peut-être une dernière question. Du coup, quels sont vos futurs projets, si vous savez déjà les définir, s'ils sont déjà écrits quelque part, pour la suite, ensemble en tout cas, ou avec d'autres?
En ce qui nous concerne tous les deux, dès que vous allez éteindre cette machine, on est censé parler de la suite de nos projets. C'est pas pour vous forcer d'éteindre l'enregistreur, mais voilà, moi je pars dans 20 minutes, en fait je dois rentrer à Paris, hélas. Non, et je répète, hélas, je pars à hélas. Mais voilà, mais on doit parler effectivement de la suite des événements en ce qui nous concerne, faire quelque chose, éventuellement enregistrer quelque chose. Donc on pourra vous dire beaucoup plus d'ici quelques mois. Mais il y a des choses qui sont lancées.
Un tout petit extra, allez, une petite minute. Quand tu chantes en breton, Eric, alors Boyan, tu pourras peut-être répondre très rapidement sur la question que je vais poser. On sait qu'il existe autant de bretons dans la langue que de villages, autant de dialectes. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'on vienne te dire, Eric, j'ai pas trop compris là, au niveau de la langue, est-ce qu'on est déjà venu te voir pour te dire, le breton que tu parles, je le comprends pas moi par rapport à mon village, mon vécu, ou est-ce que globalement, on arrive à s'y retrouver par rapport à tout ça?
Alors, la réponse est oui, évidemment, ça m'arrive tous les jours. Même pour les gens qui comprennent et qui regarde, il y a un truc qui est génial. Skriniak et Poulaouen sont deux communes qui sont côte à côte depuis toujours. Il n'y a pas encore eu de dérive des continents. Les gens de Poulaouen, pour un saut, ils disent au Rilorn. Ceux de Skriniak, ils disent au Orzaï. N'importe quel habitant de ces deux communes, pour ce mot-là ou pour l'autre, disent regarde, comment tu veux qu'on se comprenne entre nous? À Skriniak, ils disent Orzaï, nous on dit Orilorn. Les autres vont dire le contraire. Et ils connaissent tous parfaitement les deux mots. Donc ce sont des très bons dialectologues. Mais on leur a appris que, même s'ils connaissaient les deux manières de dire les mots, ils ne pouvaient pas se comprendre. Donc apprenons chacun nos dialectes, et comme ça, on n'aura plus de problème.
Ce qui est tout à fait marrant, disons que le seul parallèle que je peux faire avec ça, C'est que donc moi, je suis né en Yougoslavie et puis j'ai quitté la Yougoslavie pendant que c'était la Yougoslavie. Et quelques années après, c'était plus la Yougoslavie, donc c'était la Serbie, la Croatie, machin, etc. Donc la question, c'est quelle langue je parle. Ça s'appelait le serbo-croate. Mais c'est quoi mettre. Ah, c'est serbe ou croate, d'accord. Et en fait, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que j'ai appris cinq termes pour désigner la même chose. Et pour moi, c'était juste beaucoup de finesse avec laquelle je pouvais m'exprimer pour désigner la même chose. Avec les différentes esthétiques qui se chevauchent, qui se tuilent, etc., etc., mais qui me permettaient d'exprimer les.
Tu peux dire l'ep et tout le monde va comprendre. Tu connais des crouves, voilà, et tu auras envie de parler pour faire plaisir à quelqu'un, c'est du pain.
Donc en gros, disons que le moment où la Yougoslavie s'est séparée, parce que voilà, ça s'est fait comme ça, parce qu'ils étaient suffisamment cons de le faire, je suis devenu un polyglotte, mais alors incroyable. C'est cinq langues, je parlais une, du jour au lendemain, j'en parlais cinq. Et j'ai même inventé un terme quand on me demandait, mais alors maintenant, vous êtes quoi? Vous êtes plus, vous êtes quoi? Vous êtes yougoslave, mais ça n'existe plus. Tu vois. J'ai dit, attends, je suis français, n'est-ce pas? Ah oh, vous êtes français? Oui, je suis français. Donc attendez, je vais vous trouver. J'étais là quand ça, et j'ai trouvé. Je suis français-bosnioate. Ouais. Mais bon, aujourd'hui, c'est. C'est vieux déjà.
Merci messieurs, on était ravis de vous avoir en interview. Il s'agissait de Eric Marchand et de Bojan Zed. Parce merci que j'arrive à pas à dire le nom de famille entier.
Merci à vous. Merci.
Ne vecheris, mas jo ken foller jo wonkis, am englevau vini ju, bombardagen tolle nou. E keris nes nitra ne ve, me debatau vebem de, e keris nas ne metragos a ke batom vebem no boden odrezo di wonet dor ju hanilis azo geret a pa hamper yen de willo malos ke der chas do trajan. Nades due meder peret a pa frit o gurinen mar o eider er an rosen a res merger u me granon dan en hivern van i ralon e pentien tan de sen dirol ben ra dirol tjeris de kol san tue dan le gant kalonat zo bem er vers ka wet isat a conglar and in due ma de slavar et rue gralon gralon dal mare ve dan di jur sure na res la tremen re fe van amzer de sui o due hi gole gralon gralon dal mare ve dan di jur sure na res la tremen re fe van amzer de sui o due hi gole.